réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures ?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et si vous nous rejoignez, merci d'avoir choisi France Culture et Un autre jour est possible pour commencer cette journée du mardi 14 juin 2016. Les Shadok au programme depuis hier, l'universitaire Sébastien Denis, qui est auteur d'un ouvrage qui va devenir de référence autour des Shadok, Les Shadok, histoire esthétique et pataphysique, édité par Lina, nous raconte la saga des Shadok, les sources artistiques, littéraires, musicales de cette série, avant de parler du miroir de la France des Shadok. Ça sera pour la fin de la semaine. Aujourd'hui, deuxième épisode, on parlera des sources visuelles des Shadok. Et puis en deuxième partie, l'actualité littéraire, je reçois l'éditeur et écrivain Éric Hazan, qui parle de Paris, de son Paris, de l'histoire de sa ville, dans un livre édité au Seuil dans la collection Fiction et compagnie, Une traversée de Paris.
C'était il y a très 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 longtemps. En ce temps-là, il y avait le ciel. À droite du ciel, il y avait la planète Gibi. Elle était complètement plate et elle penchait soit d'un côté, soit de l'autre. À gauche du ciel, il y avait la planète Shadok.
Les Shadok, analyse d'un phénomène télé unique par l'universitaire Sébastien Denis. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, deuxième épisode, les sources artistiques, visuelles. Tiens, ici on parlait, ici on les décrivait, ces Shadok qui ont fait éruption en avril 1968 et qui ont marqué les esprits jusqu'à aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on leur rend hommage à travers une grande expo qui aura lieu au musée des arts modestes de Sète, chez Shadok, ces êtres anthropomorphe à l'apparence d'oiseau randouillard qui possède des longues pattes et, il faut le dire, des petites ailes complètement ridicules. Est-ce que vous pensez que c'était un clin d'œil aux comics américains avec cette manière de vouloir introduire l'autodérision si française dans un monde de comics?
En fait, le but de Jacques Rouxel, c'était
le créateur donc des
le créateur de des, l'inventeur des Shadok, ouais. Voilà des Shadok, c'était de faire un comics, donc une bande dessinée aux États-Unis animée. C'est-à-dire, c'était de faire quelque chose d'extrêmement simple qui ressemble à une BD. Il voulait tout simplement faire une BD animée. Hein, c'était son concept. Donc le but, c'était effectivement d'aller du fait de l'animographe dont on a un petit peu parlé, peut-être on en reparlera, d'aller à la simplification maximum des formes. Et donc effectivement, vous l'avez dit, les Shadok, c'est un rond. En fait, c'est tout simplement un rond avec deux petits traits pour les pattes et quelques petits triangles. Donc, on peut pas faire plus simple, en fait, en termes d'image. Et pour lui, c'était vraiment une manière de rendre hommage à un très grand dessinateur de presse américain qui s'appelait Saul Steinberg, qui était un immense cartooniste américain et qui était une star, en fait, à cette période-là. Il était d'ailleurs même connu en France. Il y a eu des expositions de Steinberg à cette période-là. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment, qui est un petit peu tombé dans l'oubli aujourd'hui. Mais je crois que justement l'occasion de reparler des Shadok, c'est aussi une occasion de rendre hommage à Saul Steinberg, qui a eu un impact en fait qu'on imagine mal dans l'univers de la justement de la bande dessinée.
Pourquoi? Parce qu'il représentait l'anti-Disney, il était le pré-Crumb en quelque sorte, il venait avec ce dessin qui n'est pas du tout soigné.
Oui, il luttait contre une forme de réalisme, hein. il allait à l'essentiel. C'est vraiment quelqu'un qui, en quelques traits, pouvait justement croquer un personnage, une émotion, un moment, et créer des moments comiques. Hein, puisque ce qui importait pour Jacques Rouxel, donc pour le créateur des Shadowhawks, c'était vraiment de revenir à l'essence même du comique. C'est-à-dire que d'avoir des petites scénettes. Hein, donc c'est vraiment, et d'ailleurs les Shadowhawks sont faits de cette manière-là.
Ça dure 2-3 minutes. Hein.
Alors 2 minutes pour la première saison, puis ensuite 3 minutes sur les saisons suivantes. Du fait du succès de la série. Mais surtout, ces 2 minutes-là sont faites d'une succession de scénettes. Hein. Et ces scénettes, finalement, rendent compte tout simplement comme des bandes, des cases de bandes dessinées. Hein. Ce sont des petites histoires qui sont extrêmement simples et du coup qui sont faites pour marquer le spectateur, hein, tout simplement.
D'autres références que celles de ce grand dessinateur américain?
Alors, il y a 2 types de références. Il y a une référence dans le monde de l'animation. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que Steinberg, c'est vraiment sa référence, la référence de Jacques Rouxel dans le monde du comics. Par contre, une autre référence dans le monde du dessin animé est une société très importante qui s'appelle UPA, United Productions of America. Qui est une société qui aujourd'hui est un petit peu oubliée, mais que les amateurs d'animation connaissent par contre très très bien, parce que c'est justement une société qui a eu un peu le même rôle que Steinberg par rapport aux comics, et qui a totalement reformaté l'animation mondiale. Ils ont eu un impact mondial, et cet impact, bien évidemment, il a été effectif aussi sur Jacques Rouxel, notamment... Je crois du fait qu'il a été, comme on l'avait évoqué hier, il a grandi aux États-Unis et il a vu donc l'émergence justement de ce nouveau cartoon américain, qui est un cartoon qui en fait exactement la même chose que Steinberg en comics, c'est-à-dire qui fait des choses extrêmement simples, des couleurs, des aplats. Donc des aplats colorés, des formes extrêmement simples, une narration qui est pour le coup plutôt complexe, et tout ça allant à l'encontre de Walt Disney, vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est très important d'avoir en tête qu'effectivement dans le monde du cartoon, et dans le monde de l'animation en général, il y avait d'un côté Walt Disney et de l'autre le cartoon américain avec Tex Avery, la MGM, Chuck Jones, etc. C'est-à-dire 2 types de cartoons différents, hein, un plutôt long métrage, et l'autre avec plutôt réaliste, l'autre plutôt au contraire excentrique avec Tex Avery, mais... UPA propose une manière de faire de l'animation qui n'a rien à voir, ni avec Disney, ni avec Tex Avery ou Chuck Jones. C'est une manière de faire de l'animation qui est révolutionnaire, réellement. Et c'est ça qui va marquer Jacques Rouxel quand il va vouloir faire de l'animation. Il va se dire, je veux m'inspirer justement des films de Robert Cannon, qui était le réalisateur maison, hein, attitré presque de UPA. Et qui a eu, donc, il cite souvent un film qui s'appelle Madeline, par exemple, hein, qui est visible sur Internet, pour ceux que ça intéresse. Et si vous voyez Madeline, vous verrez qu'on a des fonds orange, des figures extrêmement simplifiées, c'est-à-dire que ce qui l'intéresse...
Vous expliquez très bien que tous ces mouvements complexes, que les personnages classiques des cartoons sont vraiment simplifiés, ça devient carrément des caricatures simplifiées, avec beaucoup d'abréviations, d'ailleurs, ça joue dedans. Et puis, cette violence des couleurs, justement. Alors, parce qu'on comprend l'économie des mouvements et tout ça, mais pourquoi mettre justement ces couleurs?
Alors là, il faut revenir, en fait, sur d'autres sources qui sont à la fois celles de UPA et, du coup, celles de Rouxel. Rouxel étant, on l'aura compris, inspiré très largement par UPA. Eh bien, ces sources-là, c'est les sources de l'art moderne, tout simplement. Parce que UPA... et Jacques Rouxel ont été absolument fascinés, comme évidemment beaucoup de monde à l'époque, par les grands artistes de l'art moderne, par Kandinsky, par Miro, Duffy, qui sont justement des artistes qui travaillent sur cette question de la simplification des formes, des aplats colorés. Hein, voilà, donc tout ça, tout cet univers-là, évidemment avec des univers propres à chacun de ces grands artistes, mais il y a cette idée qu'on va pouvoir avoir une approche beaucoup plus plate. Hein. On est vraiment sur des questions de deux dimensions, de formes extrêmement géométriques, hein, de formes simples. Et ça, c'est des choses qui vont complètement influencer les artistes de la UPA et du coup Jacques Rouxel, qui va, c'est aussi pour ça qu'il travaille sur des formes simplifiées, qu'il travaille sur des aplats colorés. Hein. Bon, au tout début, c'est en noir et blanc, mais en fait, ça a été fait en couleur. Hein. Donc ensuite, la série va passer en couleur, et on voit bien en voyant la série aujourd'hui que les couleurs sont absolument centrales. C'est-à-dire que c'est vraiment des chocs de couleurs. Hein, souvent, il met du rouge et du vert. Il fait s'entrechoquer des formes colorées. Et en ça, bien sûr, on a aussi cette idée que il travaille sur un imaginaire qui est celui effectivement de Miro, des grands mobiles, hein, de ces formes-là. On parlait aussi d'un certain nombre de sculptures. Hier, on parlait de Tinguely, par exemple, et de ces grandes machines folles, hein, qu'il fait en sculpture. Tout ça, ce sont des choses qui sont cohérentes dans cet univers de l'art moderne.
Mais puisqu'on parle des influences, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Sébastien Denis, mais il y a aussi l'envie peut-être de Jacques Rouxel de rendre hommage à Tex Avery. Je pense à la phrase des Shadocks, hein, qui terminait les épisodes des Shadocks, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que c'était un clin d'œil volontaire ou involontaire au That's All Folks des Melodies?
Oui, je pense. Là, pour le coup, personne n'en parle, mais oui, ça me semble évident que effectivement, c'est la même chose. C'est la traduction. That's all folks. C'est tout pour aujourd'hui. C'est ce qui clôt chaque épisode des Shadocks avec un bruit de trompette. On a une histoire, si vous voulez, avec ça. Il refait l'histoire de l'animation. Maintenant, à nouveau, il faut pas se... Même s'il adorait Tex Avery, son penchant naturel allait beaucoup plus vers UPA que vers Tex Avery, hein, son univers visuel. Après, bien sûr qu'il adorait les gags, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le cartoon américain. Je crois à nouveau qu'il faut rappeler sa jeunesse aux États-Unis pour comprendre qu'à cette période-là, on ne pouvait pas échapper, ni à la télévision, ni dans les salles, au cartoon, hein, à ces 7 minutes de comique. Et donc, bien sûr, c'est quelque chose qui l'a marqué à l'époque.
Et pour terminer cet épisode consacré aux sources artistiques, visuelles, dans les Shadocks, dans l'œuvre de Jacques Rouxel, est-ce qu'il ne faut pas voir du côté de ce qui se faisait à la même époque, pas loin des Shadocks, c'est-à-dire ce qui se produisait à la télévision française? Je pense notamment à Jean-Christophe Averty.
C'est vrai qu'il faut faire ce parallèle. Vous avez complètement raison de le faire, parce que il s'agit là de deux créateurs qui veulent modifier intégralement le rapport du téléspectateur aux images, en particulier sur des questions de planéité. C'est-à-dire que Jean-Christophe Averty travaille sur ce qu'on appelle aujourd'hui du compositing, c'est-à-dire qu'il mélange des images les unes dans les autres, mais à la manière d'un enlumineur. Lui, son but, c'était vraiment de faire de l'enluminure visuelle à Jean-Christophe Averty. Et c'est d'autant plus important d'en parler qu'il y a cet aspect révolutionnaire à la fois formellement pour les deux artistes, mais des mêmes références, hein, celles dont on parlait hier, en fait, qui sont Ubu, hein, tout simplement, puisque Jean-Christophe Averty va faire une adaptation d'Ubu du Burois en 1966, hein, avec un certain scandale, puisqu'effectivement, il est question de la merdre, bien sûr. Et avec quelque chose qui, visuellement, est tout à fait extraordinaire. Donc, bien sûr que Jacques Rouxel on peut trouver un antécédent, si vous voulez, à Jacques Rouxel, au Jacques Rouxel de 68, dans tous les travaux révolutionnaires de Jean-Christophe Averty pour la télévision. Donc, non pas pour le service de la recherche de l'ORTF, comme Rouxel, mais pour l'ORTF. Effectivement, Averty avait la chance de pouvoir travailler dans les meilleures conditions et de pouvoir développer des choses extraordinaires. Et il faut aussi avoir en tête qu'il a fait une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, on voit bien qu'il y a une relation qui est quand même assez intime en termes de sources. Alors, certes, peut-être, Jean-Christophe Averty était beaucoup plus du côté du surréalisme que ne l'était Jacques Rouxel, mais Il y a là un imaginaire commun, on va dire, qui se détache, hein, dans cette France de la moitié des années 60, de la fin des années 60, qui va clairement vers la révolution, une révolution audiovisuelle, hein, qui cherche une nouveauté des formes.
Une nouvelle écriture.
Et qui la cherche aussi à travers une nouvelle, de nouvelles modalités de narration. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça que ces sources-là, comme Ubu, comme Lewis Carroll, sont aussi importantes, ces sources, pour reformater un discours télévisuel qui, à l'époque, est quand même déjà, il n'a pas fallu attendre très longtemps pour que ce soit extrêmement formaté. Donc le but, c'était de casser le formatage, finalement, audiovisuel, et de proposer, voilà, de nouvelles formes qui réveillent le spectateur. C'est-à-dire, voilà, contre une espèce de d'endormissement général du spectateur par Guy Lux, les jeux, etc., la musique, il s'agissait de complètement crever l'œil, un peu, hein, à la manière vraiment de Buñuel. Il s'agissait de d'ouvrir le regard du spectateur et de proposer des formes dérangeantes qui interrogent, voilà, qui créent quelque chose qui fasse s'interroger le spectateur sur ce qu'il est en train de regarder.
Et vous n'avez pas employé le mot de pataphysique.
Non, mais la pataphysique, elle est bien là, en fait.
Ouais.
Elle est dans le concept même de d'Ubu, et d'ailleurs dans la spirale, hein, qu'on voit sur Ubu, que Jarry a dessiné sur Ubu, qui est le début de chaque
et la fin
de chaque épisode des Shadocks. Hein. Il y a bien cette espèce de effectivement spirale pataphysique qui nous emmène on ne sait où.
Demain, on va parler de la musique, et c'est toute une histoire, la musique des Shadocks. Merci beaucoup Sébastien Denis, à demain. Je rappelle le titre de votre ouvrage édité par Lina, Les Shadocks, histoire, esthétique et pataphysique.
Au milieu du ciel, il y avait la Terre qui était ronde et qui bougeait. Sur la Terre, il n'y avait apparemment rien. Sur la planète Jibi, il y avait des animaux qui s'appelaient les gibis. Et quand il y avait trop de gibis d'un côté, la planète penchait, les gibis glissaient, il y en avait qui tombaient. C'était très gênant, surtout pour les gibis.
France Culture. Un autre jour est possible, par Toufik Hakem. L'invité culturel.
Une traversée de Paris d'Ivry à Saint-Denis, qui parle d'aujourd'hui et de tous les temps. Une traversée de Paris avec la grande histoire de la ville et de son architecture mêlée avec les petites histoires de notre invité ce matin, Éric Hazan. Bonjour.
Bonjour.
C'est l'objet de votre dernier livre édité par Le Seuil dans la collection Fiction et compagnie. Une traversée de Paris. Voilà. Et bien sûr, le titre de votre livre a été inspiré par un film classique, un grand film réalisé en 1956 par Claude Autant-Lara et qui réunissait Bourville, De Funès, Jean Gabin.
C'est la rue, là, hein?
Bah, qu'est-ce que vous voulez que ça soit?
Eh oui, la rue Poliveau.
Quoi, la rue Poliveau?
Ben quoi? Il y a pas de mal à habiter la rue Poliveau, c'est une gentille petite rue. Petite goutte, patron.
Ah non, non, non. Je vous ai dit qu'on est pressé. Et ce soir, c'est pas la porte à côté, hein. C'est la rue Le Pic.
Rue Le Pic? Vous m'aviez dit rue du Temps.
Ouais, parce que ça fait pas une grosse différence.
Oh. Deux bornes.
Oh, toi, maintenant, ferme-la, hein. Question à faire, c'est moi qui ai la parole.
Se taper un cochon de la rue Poliveau à la rue Le Pic, se farcir toute la traversée de Paris avec partout les flics, les poulets et les frites. Et les souliers qu'on use, le tout au pas de chasseur, en plein noir, 6 kilomètres.
Oui.
Oh, toi, je te demande rien, hein.
C'est bon, disons 400 francs.
Oh, mais à ce prix-là, cherchez des clochards. Moi, je suis un homme.
Ça va, je fais un effort. 450 francs. 900 francs pour les deux, hein?
Éric Hazan, ce film a aujourd'hui 60 ans. On ne parle plus de francs dans les rues de Paris, dans les faubourgs de Paris. On parle en euros maintenant, on parle d'euros. Mais sinon, est-ce que Paris est toujours Paris, d'après vous?
Bon, je crois que l'idée que Paris disparaît, c'est de tous les temps, hein. On trouve ça chez Balzac, hein. Ce qui disparaît de Paris. Je crois que l'idée que Paris n'est plus ce qu'il était, ça fait partie du pessimisme ambiant. Mais je crois que, disons que ce livre réagit contre ce pessimisme ambiant. ce qui m'a frappé, j'avais pas cette idée tellement là dans la tête en partant, mais ce qui m'a frappé au fond, c'est à quel point la ville reste vivante, la ville reste populaire, la ville reste d'une grande force, d'une grande énergie.
Vous parlez de vous, Parisien, Éric Hazan, vous parlez de l'histoire de la ville, vous parlez de toutes les références littéraires qui vous accompagnent et qui accompagnent Paris, mais n'empêche que vous avez vu Paris changer. Est-ce que, quand on a vu cette ville autant changer, tout en restant Paris, Éric Hazan, d'ailleurs vous le dites très bien pour le jardin du Luxembourg, qui est très lié à votre enfance, est-ce que c'est une ville qu'on vit au jour le jour ou qu'on est obligé de vivre époque par époque? Est-ce que chaque quartier, je veux dire par là, vous renvoie à une époque bien précise?
Je dirais oui. Par exemple, aujourd'hui, si on me dit le Marais, un quartier parisien vraiment avec une identité forte, si je pense au Marais de mon enfance, c'était noir, sale, pauvre. Les cours étaient encombrés d'appentis de tôle avec des charrettes à bras. Le quartier juif était misérable. Vraiment, on peut dire que ce quartier n'a plus rien en commun avec ce qu'il était en 1950.
Et pourtant, ces immeubles sont là.
Ah oui, les vieilles pierres sont là. Passées à la brosse à dents, impeccable aujourd'hui, alors qu'elles étaient branlantes, couvertes de suie et très abîmées en 50.
Barbès aussi, la goutte d'or est en train de changer en ce moment.
Oui, résiste quand même. Elle résiste, la goutte d'or. Bien sûr, il y a ce café à l'angle du boulevard Barbès et du boulevard de la Chapelle, qui est une véritable offense à la population du quartier. Une brasserie de luxe à cet endroit-là, c'est obscène.
Vous faites parler les pierres, l'histoire, vous donnez à entendre les écrivains parlant de Paris, ces grands marcheurs, on va en parler, Éric Hazan, mais il y a aussi le côté sonore de Paris qu'on entend en lisant vos lignes. Et on est très surpris parce que effectivement vous racontez Paris d'une manière très originale. Par exemple, pour Barbès, pour vous c'est Marlboro, les vendeurs.
Marlboro.
Voilà. Mais Éric Hazan, pourquoi avoir pris justement cet itinéraire d'Ivry à Saint-Denis? Parce que la première question qu'on se pose quand on voit cette traversée de Paris, c'est est-ce que Éric Hazan fait partie du peuple parisien, celui de l'Est parisien ou celui de l'Ouest parisien? Ben non. Vous préférez prendre cette ligne médiane?
À vrai dire, il s'est passé un truc bizarre. C'est au fond l'idée de me lancer dans l'écriture d'une traversée de Paris. Ça, c'était l'idée numéro un. Après, sur quel itinéraire? Eh bien, j'ai pratiquement pas eu à réfléchir pour trouver celui-là. Et dans un troisième temps, je me suis dit, mais là, je fais un peu de, disons, quelques secondes de psychanalyse au rabais. Au fond, je me suis rendu compte que là, c'est vraiment mon inconscient qui a parlé. Cette traversée, elle suit, au fond, elle suit...
Votre vie, la traversée,
oui,
de votre... Oui,
elle suit ma vie. C'est même incroyable. Je l'ai parcourue d'un bout à l'autre, à différentes époques de ma vie. La naissance, l'adolescence, le lycée, le travail, l'hôpital.
Il y a des photos de Paris tous les temps. Il y a aussi quelques croquis, quelques plans esquissés.
Oui, j'ai cherché à ce que les gens qui ne sont pas des Parisiens dans l'âme soient pas perdus dans ce livre.
Et vous, Éric Hazan, est-ce que pour écrire cette traversée de Paris, vous avez fait comme
oui.
Zola, c'est-à-dire que vous avez marché avec
oui.
un crayon et un carnet à la main?
Oui, un crayon et un carnet à la main. Tout ce que j'ai fait là, je l'ai fait à pied. Ça m'a pris presque un an. Tout ça, c'est du vécu.
Alors pour les références historiques, pour parler de l'architecture de Paris, on voit à la fin du livre que vous remerciez quelqu'un qu'on a, qu'on aime beaucoup, que j'aime beaucoup et qui a longtemps travaillé à France Culture, François Chalin par exemple. Mais toutes ces références littéraires qui accompagnent votre déambulation dans Paris, c'est ce qui reste quand on a tout oublié? Ou vous êtes allé, ou vous avez fait des recherches pour trouver les textes de Paris?
Non.
Voilà.
Donc. Non. Les références qui sont citées dans ce livre sont des textes avec lesquels j'ai une grande familiarité. Il n'y a pas de recherche. J'ai tout ça. Bon, je dis pas que je les connaissais par cœur, hein, toutes ces citations et toutes ces allusions, mais je savais où elles étaient très bien. Je vis avec depuis longtemps.
Alors, Éric Hazan, est-ce que aujourd'hui il y a quelqu'un qui parle de Paris comme est vraiment Paris? Est-ce qu'il y a un écrivain de Paris aujourd'hui?
Il me semble que Paris a cessé d'être un grand sujet littéraire depuis longtemps. Je dirais presque que le dernier grand livre dont Paris est plus que le cadre, mais le thème, c'est Nadjad Breton. Modiano, c'est un peu autre chose. Paris est pour Modiano, un cadre. Alors que pour Breton, c'est un sujet. Mais peut-être que Henri Calais, j'adore Henri Calais, Paris est aussi, il me semble, peut-être un peu son sujet. Mais enfin bon, ça nous met à l'époque de la traversée de Paris, hein, c'est les années 50, Henri Calais. Mais et peut-être qu'il y a un bon écrivain ou une bonne écrivaine de Paris qui m'échappe. C'est tout à fait possible.
Est-ce que aujourd'hui vous avez un quartier parisien de prédilection? Et si oui, est-ce un quartier nouveau, c'est-à-dire un quartier qui ne vous renvoie pas à certaines périodes de votre vie? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à découvrir dans Paris, pour aller vite, Éric Hazan?
Pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on appelle Paris? Si aujourd'hui, je pense que on peut plus assimiler Paris avec ce qui se passe à l'intérieur des boulevards des Maréchaux, le Paris des 20 arrondissements, ça ne résume plus Paris aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai pris bien soin dans ce livre de partir d'Ivry et d'aller à Saint-Denis, dans Paris. Je crois qu'aujourd'hui, il faut penser que le Paris a 10 millions d'habitants, 2 millions dedans et 8 millions dehors. Et si on pense Paris comme ça, c'est sûr qu'il y a plein de choses à découvrir.
Pour terminer, on sait que La Traversée de Paris, le film de Claude Autant-Lara, réalisé en 1956, est pour vous un film important. S'il fallait terminer par le roman de Paris, vous allez citer qui? Victor Hugo, Zola, un auteur plus contemporain?
Les Illusions perdues, Balzac.
Éric Hazan, Une traversée de Paris, édité par Le Seuil, dans la collection Fiction et compagnie. Merci beaucoup d'être passé ce matin.
Merci.
C'était Un autre jour est possible, à retrouver sur franceculture.fr si vous voulez réécouter cette émission ou la partager. Émission préparée avec Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet, réalisée par Thomas Duterre avec ce matin à la technique Jean-Michel Bernaud. J'espère vous retrouver demain à la même heure. Bonne journée sur France Culture.